Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi de commencer par la fin aujourd'hui. Voilà ce qui va se passer au terme de cette émission. Après avoir remercié mes invités, je vais retourner dans mon bureau avec toute l'équipe. Et là, je vais prendre un feutre rouge pour rayer le débat du jour sur notre tableau. Un grand tableau accroché au mur qui récapitule les thèmes des émissions. Comment décrire ce que je ressens au moment de tracer ce simple trait rouge ? Un frisson de satisfaction. Non pas que je me sente débarrassée, hein, pas du tout. Mais ce coup de feutre a une saveur inestimable. Vous êtes nombreux à connaître cette sensation, avouez. On dresse des listes de trucs à faire pour le simple plaisir de les rayer ensuite. Eh bien, c'est cette étrange manie que nous allons interroger aujourd'hui. Pourquoi fait-on des listes ? Serait-ce une manière de tout contrôler ou au contraire de culpabiliser en se focalisant sur tout ce qu'on n'a pas encore fait ? Est-ce une façon de procrastiner aussi ? Nos listes ne sont jamais terminé, mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Il ne vous a pas échappé que la liste est aussi devenue un genre journalistique très prisé, notamment sur Internet. Un top 10 des pires phrases sexistes de Donald Trump aura plus de succès qu'un simple article sur le même sujet. Faut-il y voir une facilité ou une façon de mieux agencer les informations ? Cette émission va tâcher de faire la liste de toutes les listes de nos vies avec vos contributions, chers auditeurs. Vous nous écrivez sur votre application France Inter ou sur le site de l'émission. Faut-il rayer les listes ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et je vous présente mes trois invités. Une psychiatre nous rejoindra tout à l'heure au téléphone pour nous dire si les listes peuvent être pathologiques. Bonjour Titu Lecoq.
Bonjour.
Elle est déjà très inquiète. Vous êtes journaliste, notamment pour Slate.fr. Et vous êtes, si j'ose dire, une spécialiste des tâches ménagères. Hein, auteur d'un livre intitulé « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale chez Fayard ». Ouvrage qui va sortir en poche à la rentrée d'ailleurs. Les tâches ménagères, c'est le royaume des listes, Titu Lecoq.
La maison, c'est le royaume des listes, ouais. De toute façon, oui. Et les femmes sont un peu les reines des listes aussi.
Alors dites-nous tout de suite, vous en faites, vous, beaucoup des listes ?
Alors moi, j'ai toujours fait beaucoup de listes. C'est vrai qu'on incite les enfants à en faire, la liste des cadeaux de Noël, la liste pour des copains qu'on invite à l'anniversaire, etc. Donc très vite quand même, ça rentre. Et après, j'ai continué la liste des trucs que je veux faire dans la vie. Donc voilà, oui, je suis toujours une passionnée des listes.
C'est parfois existentiel, non ? La liste des trucs à faire dans la vie, c'est...
Avant de mourir. D'ailleurs, le document s'appelle « Avant de mourir » sur mon ordinateur.
Pouvez-vous nous révéler le premier item de cette liste, non ?
Non, c'est vraiment honteux.
C'est beaucoup trop intime. Mon deuxième invité incarne le journalisme de liste, dont je parlais à l'instant. Bonjour Benoît Lebrot.
Bonjour.
Vous travaillez chez topito.com, oui. Un site internet qui ne fait que ça, des listes. Ou plutôt des tops. Quelques exemples glanés sur votre site récemment, le top 10 des personnalités les plus appréciées au monde, top 8 des pires mariages de l'histoire, top 15 des phrases qui montrent que tu n'y connais rien en foot. Vous êtes community manager de Topito. Comment ça se dit en français ? Parce que les auditeurs vont m'engueuler encore.
Alors je crois que l'Académie française n'est pas allée sur le terme encore, mais on va dire gestionnaire de communauté.
Voilà, responsable des réseaux sociaux, voilà. De Topito. Un exemple de liste virale peut-être, de liste qui a connu un très gros succès chez Topito ?
Là, dernièrement, parce qu'on le remet à jour chaque année, c'est les villes les plus chiantes de France.
Oh, ça, c'est terrible.
Ça, on s'en prend des mails après.
Ah, sans blague. Quelle est la ville la plus chiante de France ?
Je le dirai pas, je veux pas le dire, mais je sais que Le Havre, on les a fâchés cette fois-ci.
Et Dieppe aussi, hein, j'ai vu, sans vouloir vous dénoncer.
Je suis vraiment désolé. Non, mais en plus, c'est d'une mauvaise foi absolue, mais on est conscient, mais les gens ont voté. Donc, c'est le peuple français qui a voté pour les villes les plus chiantes de France. Cholet aussi nous a volé pas mal de. Mais voilà. En plus, on aime bien.
Alors, vos courriels, c'est pour topito.com, hein, c'est pas pour France Inter, je le précise d'emblée. Il n'y a que ça, vous me confirmez que sur Topito, il n'y a que des listes, aucun article sans liste.
Il y a 25 000 listes aujourd'hui et c'est vrai qu'elles commencent pratiquement toutes par... 25 000, elles commencent toutes par top et en chiffres.
Donc il y a une idée de classement où tout est au même niveau dans
non,
un top.
Non, c'est ça. Oui. Il y a une idée de classement. Le 1 est souvent plus chiant que le dernier pour les villes les plus chiantes. Désolé encore, mais voilà, oui, classe.
Vous allez beaucoup vous excuser pendant cette émission. Non,
en plus, ça me vient dans la tête, mais à chaque fois, on se fait insulter. Je suis pas d'accord parce que je viens de Limoges et Limoges est dans le top.
Ah.
Et je hurle.
Et c'est bien mérité.
Non, mais non, Limoges, c'est génial.
Mon troisième invité fait des listes de livres. C'est sa profession. Ça bonjour arrive. Florent Georgesco.
Bonjour.
Journaliste au Monde des livres, critique littéraire. Alors pour tout vous dire, c'est votre liste qui m'a donné l'idée de cette émission. Le Monde a publié récemment la liste des 100 romans préférés du monde, ceux qui ont suscité l'enthousiasme dans vos colonnes depuis 1944,
c'est-à-dire la création du journal.
C'est la date de naissance du journal. C'est un peu vertigineux de dresser une telle liste. On pense évidemment au 101e, à celui qui n'est pas dans la liste.
Mais il y a 101e à peu près. Je l'ai sous les yeux. C'est vrai que c'est un souvenir de souffrance. Faire une liste, c'est d'abord se débarrasser de beaucoup de noms, en l'occurrence, qu'on aurait aimé défendre.
Albert Camus, pour ne citer que lui, ne figure pas dans cette liste. Comment avez-vous procédé, Florent Georgescu?
Il y a beaucoup d'autres injustices. Ah. Soyez rassurés sur ce point. Nous avons procédé c'est un gros travail d'équipe. J'en profite pour remercier tout le monde. Beaucoup de gens à la rédaction du Monde ont participé à cette entreprise, et notamment le service de documentation qui a fait un travail remarquable. Nous avons lancé, en fait, la liste, les listes nous ont servi de cartes, comme dans une bataille. Au début, chacun avait un peu sa liste. On a batté nos cartes à tour de rôle. On a essayé de penser à tous ceux qui nous étaient chers. Mais ça, c'était que le point de départ, puisque après, à partir de ça, il fallait qu'on aille chercher ce qu'il y avait réellement dans les archives. C'est pas parce que nous voulons dire que Camus a écrit quelques-uns des meilleurs livres de l'histoire de la littérature que nous allons le mettre dans la liste, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de ceux qui nous ont précédés.
Ça dépend de l'enthousiasme à l'époque,
de ce qui s'est passé réellement
littéraires.
Dans nos colonnes.
Donc il faut assumer les erreurs commises par le passé.
Des erreurs sans doute, et on peut assumer aussi nos propres erreurs, c'est-à-dire nos oublis. Il y a dans cette liste des livres, des noms d'auteurs, qu'on a totalement oublié, et c'est peut-être injuste tout autant que de ne pas mettre Camus dans la liste. Et donc nous avons Paul Vialard, par exemple, qui est passablement oublié aujourd'hui.
Très peu de femmes aussi, très peu de romancières dans la liste.
Bien sûr, parce que c'est un document historique. On raconte l'histoire de la relation de ce journal et des livres. Il y a eu une rubrique, c'était à l'époque juste un feuilleton qui était tenu par Émile Henriot. Je crois que notre opération a contribué à revaloriser la mémoire d'Émile Henriot, et j'en suis très fier. Donc dès 44, dès les premiers numéros du Monde, il y avait un livre, une chronique de livres présente, signée donc Émile Henriot. Et nous, on a voulu raconter cette histoire-là. Ça commence avec lui, ensuite ça se développe, il y a d'autres feuilletonistes, puis est créé en 67 le Monde des livres lui-même, un supplément qui se détache du quotidien tout en faisant toujours partie. Nous avons voulu raconter comment ça s'était passé, qu'est-ce que c'était que la relation d'un journal avec des livres, et donc c'est forcément injuste, forcément
partiel.
Voilà. Mais c'est pas notre arbitraire, c'est celui de tout ce journal depuis 44.
On trouve dans cette liste en vrac Aurélien d'Aragon, L'attrape-cœur de Salinger, Bonjour tristesse de Sagan, De sang-froid, Truman Capote, La vie mode d'emploi, Georges Perec, j'ai pas cité les 100 évidemment, le tout dernier de la liste puisqu'elle est classée par ordre chronologique, c'est Le Lambeau, je crois, de Philippe Lançon. J'ai été très amusée de lire que Belle du Seigneur, Le Monde était passé à côté de ce roman d'Albert Cohen parce qu'il était trop épais. On a tort, bien sûr, écrit Pierre-Henri Simon, car il ne faut jamais oublier que les grands romans ont le droit aussi d'être gros.
Et les critiques ont le droit d'avouer leurs erreurs et d'être pardonnés, parce que Pierre-Henri Simon, dans cet article, finit par dire qu'il y a de très grandes choses dans ce livre, mais il raconte à quel point ça a été difficile pour lui de s'y mettre. Je pense qu'il n'est pas le seul à avoir connu ça avec ce livre et avec d'autres.
Allez, on ausculte en détail notre envie de liste dans un instant. Voici d'abord Aldous Haring sur France Inter. Kevin Pelot et Rémi Sistiaga sont aux manettes. Émission préparée par Caroline Pommès, réalisée par Lola Costantini.
Honey, your face is folding up. There's the memory kisses you good. To live with melody and heaven on his tongue, isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure and in love. In the corner in blue is my name.
knows the wine where you live, that it's expensive. One day we'll share a glass together and ride the dunes. I'm riding too. There's a definite
La programmation musicale du débat de midi est signée Jean-Baptiste Audibert. Notre question du jour peut sembler un peu saugrenue, mais elle se penche sur une manie très contemporaine. Faut-il rayer les listes ?
Je sais pas vous, mais moi quand je fais les courses, c'est toujours la même routine. À chaque fois, je fais une petite liste de courses bien propre que j'oublie.
Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rames, le délice à la noix, la galette des rois, non. Ah ! Le cake d'amour. Ma robe couleur de soleil.
Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté.
Les cinq choses qui me manquent à propos de Laura. 1. Son sens de l'humour. 2. Elle a du caractère. 3. Son parfum. Son odeur me manque.
Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux.
À payer EDF, Orange, abonnement canal, plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Une baguette, crevettes, trois avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-crémé bio, ciseaux bio, 7 poubelles, 50 litres.
Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout.
Et la première chose qui frappe, notamment en entendant le frigidaire et l'armoire à cuillère de Boris Vian, c'est la poétique de la liste. Umberto Eco, d'ailleurs, a consacré un livre à ce sujet qu'il a intitulé « Vertige de la liste ». Vous êtes sensible, Titu Lecoq, à la beauté des listes, tout simplement ?
Oui, je trouve ça fascinant. Et là, en écoutant les extraits, je me disais, je pensais qu'il y a quelque chose de très enfantin dans la liste. Une espèce de rapport direct au monde. On n'a pas besoin de verbes. La liste est quand même le principe d'enlever les verbes.
C'est le degré zéro de l'écriture.
Voilà, et cette suite de mots comme ça. J'ai l'impression que les enfants font beaucoup de listes et que ça reste un truc, voilà. Quand même les adultes qui font des listes, on sait qu'il y a une saveur un peu enfantine. Et du coup, j'y pensais sur Internet, il y a beaucoup de listes. Des jouets vintage, de ce que vous, si vous êtes né en 72, vous avez forcément connu, et il y a des listes. Et je me dis oui, bah oui, parce que l'enfance, ce sont des listes, en fait.
Ah, c'est un plaisir nostalgique, Florent Lebrun, le plaisir de la liste.
Oui, c'est un de nos thèmes, la nostalgie, c'est vraiment.
Vous êtes, je le rappelle, community manager du site Topito, hein, qui fait beaucoup de listes.
Oui, 25 000 listes, je vous le rappelle. Non, la nostalgie, c'est un des thèmes qui marche à coup sûr, et c'est vrai qu'il y a une petite musicalité dans la liste.
Tu sais que les enfants, ils font par exemple, ils font la liste de leurs amis. Mais ils peuvent la refaire, la liste des choses que j'aime le plus dans la vie, ils peuvent la refaire tous les jours.
Et c'est ça le plaisir de rayer des noms.
Mais le plaisir de rayer des noms, il y a un truc un peu cruel, évidemment. Oui.
Je vous ai rebaptisé Benoît Lebrun de Topito. C'est pas vous qui avez inventé les listes, évidemment, sur Topito. Alors,
je crois que Moïse l'a fait en premier, vraiment, avec 10 commandements, et il l'a bien fait parce que c'est resté dans l'histoire. Oui. Mais nous, on a été créé en 2006. Mes deux patrons, Laurent Moreau, Benoît Parizeau, ils sont partis d'un livre.
Ce sont des anciens de Yahoo, il faut le préciser, donc presque des précurseurs. Des internets.
C'est ça, en 2006 l'iPhone n'existait pas, donc il faut dire que c'était peut-être la préhistoire de l'internet, mais ils sont partis d'un livre qui s'appelle Haute Fidélité.
Dont on a entendu un extrait pour l'adaptation en film à l'instant là.
Oui. Pour tout, alors, peut-être sûrement pas dans votre liste dans votre top 100, mais pour tous les mélomanes c'est génial parce que ce livre il doit citer 200-300 chansons qui vont des années 60 à 80 et il fait des listes tout le temps.
Le personnage de ce roman est disquaire, je crois, c'est ça, amateur de rock, et il fait des
des listes tout le temps. Voilà. Donc, par exemple.
Bah non, mais il commence avec les 5 ruptures les plus difficiles. Enfin, il revient sur son amour tout le temps. Et il fait, par exemple, les 5 chansons que je veux à mon enterrement.
Voilà. Une liste que tout le monde devrait faire tous les jours, n'est-ce pas?
Oui, si tu le veux.
Et donc, l'idée est venue de là. Et donc, ils ont commencé en faisant une liste par semaine sur le petit blog topito.com. Et puis après, une liste par jour. Et puis après, ça a grossi. On arrive à 25 000 10 ans après.
Umberto Eco, dans Vertige de la liste, dresse l'inventaire des 350 capitaines de flotte grecque que cite Homère. Il évoque les poèmes de Prévert aussi, qui sont très souvent des listes. Grâce à une poétique de l'etc., écrit Umberto Eco, les listes suggèrent presque physiquement l'infini. Voilà sans doute ce qui nous fascine dans l'idée d'inventaire, d'accumulation, Florent Georgesco. Oui. On touche du doigt l'infini.
En même temps, c'est un moyen de lutter contre l'infini. Et on parlait de nostalgie, vous parliez, Titu, de l'enfance. C'est vrai qu'il peut y avoir même un aspect régressif dans l'usage des listes. Et notamment parce que ça peut avoir aussi à faire avec de la peur. On est face, sur tous les sujets, on est face à de l'immensité. Enfin, tout est innombrable et on veut dénombrer quand même. On veut arriver à croire qu'on peut maîtriser quelque chose. Vous parliez de la beauté des listes. Il y a un philosophe qui avait écrit un livre qui s'appelait Philosophie de la liste il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Bertrand Sèvres, qui est un professeur d'esthétique, justement. Il a beaucoup travaillé sur l'esthétique de la liste. Mais il disait surtout, la liste est le reflet de l'esprit humain, d'un esprit humain qui est vite débordé par tout ce qu'il a autour de lui et qui cherche peut-être à travers les listes à se faire croire qu'il est possible de se repérer, qu'il est possible d'exister, de ne pas être écrasé par tout ça.
Voilà précisément ce qu'écrit Bernard Sèvres. La liste attire l'homme parce qu'elle semble pouvoir quadriller le monde.
Exactement.
Mais l'homme souhaite aussi que le monde ne se laisse pas quadriller si facilement.
Exactement.
On est
entre les deux. Et moi, je le vois bien par ma propre expérience des listes. Je vais vous dire une chose, je suis le plus mauvais invité ce sujet, pour une raison seulement, qui est que personnellement, dans ma vie, je ne fais jamais de liste et les listes de j'ai plutôt une sainte horreur des listes. Et en même
alors,
temps,
vous parlez des listes de tâches ménagères, Florent Georgesco? Parce que Titu Lecoq va vous répondre que ce sont les femmes qui font les listes à la maison.
Je vous assure, je pense qu'elle est à l'écoute. Ma femme n'en fait pas non plus, je vous le garantis. Mais en même temps, je passe ma vie au travail à faire des listes, et pas seulement celle qui nous réunit là, enfin celle qu'on a faite avec le top 100 du monde. Travailler, surtout dans notre métier qui consiste à trier entre les livres, on reçoit des milliers de livres par an et on parle d'une petite portion de ça. Notre boulot est en permanence pour survivre de faire des listes.
Donc on parle de vertige, de plaisir, mais vous c'est de la douleur aussi la liste.
C'est de la l'immensité de ce qu'on a à traiter est une sorte de douleur et le renoncement est une douleur et la liste est un moyen d'essayer de survivre là-dedans. Mais en effet, il y a quelque chose de douloureux dans la liste parce qu'elle rappelle tout ce qu'on perd et tout ce qu'on ne peut pas voir ou attraper. Et je crois que dans la vie, c'est pas mal aussi de se débarrasser des listes pour essayer d'attraper ce qu'il y a d'innombrable.
Encore
dans la
un mot sur les listes en littérature. Je crois que James Joyce, dans son Ulysse, fait beaucoup de listes. Moi, personnellement, je mets ce bouquin dans la liste des livres que j'ai jamais réussi à finir. Elle existe aussi, cette liste, Titu Lecoq.
Oui, j'ai la liste des, alors que j'ai commencé à entamer justement cet été, la liste des livres que tout le monde a lu, sauf moi, et où je fais semblant à chaque fois en disant, ouais, bien sûr.
Super.
Voilà. Et donc, ça y est, je m'y suis attaquée.
Une journaliste du Temps nous a contacté sur Twitter, le quotidien suisse. Le Temps fait beaucoup de listes aussi, et notamment récemment, la liste des 50 plus grandes séries de tous les temps. Et elle explique que c'est l'article le plus consulté, hein, sur le site internet du journal. Ce qui prouve bien que le public en redemande, en veut des listes, notamment chez Topito, Benoît Lebrow.
La liste pousse au débat. De toute façon, on va aller voir cette liste pour savoir si nos séries sont dans cette liste. Si elles n'y sont pas, ça veut dire que...
On repère ce qui manque d'abord.
Je peux vous confirmer qu'on y va souvent. On va lire les listes pour engueuler les gens qui l'ont fait.
Oui, c'est ça.
Mais alors, d'ailleurs, vous disiez à l'instant que chez Topito, vous recevez beaucoup de mails fâchés parce que les gens ne sont pas contents de vos listes. Peut-être c'est la même chose au monde des livres.
Oui, ça peut arriver, oui. Enfin, ça arrive assez constamment. Mais en fait, notre travail,
engueuler,
le monde des livres est chaque semaine une liste. La liste des livres qu'on a choisi de traiter. Et ça vaut évidemment beaucoup d'engueulades. Mais là, il est vrai que les 100 romans ont concentré ça. Parce que, évidemment, certains jouent le jeu. Chacun sait qu'il aurait fait une autre liste et que c'est très bien et qu'on est dans un débat ouvert et, encore une fois, totalement infini. En fait, c'est pas un débat. C'est totalement impossible de faire la liste des 100 livres d'un siècle. Ça n'a même, en un sens, aucun sens. C'est juste un instrument, un moyen de rechercher. Nous avons fabriqué une sorte de Google de nos propres archives. Le goût de la liste, pour moi, c'est une googlisation, en quelque sorte, de l'esprit. On est tellement habitué à se renseigner sur tous les sujets à travers ce qui est une liste, Google, C'est une liste permanente de tout ce qui existe. Je crois que ça finit par former l'esprit, à donner un pli. Et en tout cas, ce que nous avons fait, d'ailleurs, j'en profite pour envoyer au site internet du Monde où cette liste est
en
ligne.
C'est bien placé,
bravo. Pas mal. Hein. c'est, je pense, pour le plaisir de nos auditeurs, parce que c'est là que la liste joue à plein. Parce que là, dans le papier que nous avons fait, dans le supplément que nous avons fait, qui est d'ailleurs, lui, gratuitement disponible dans certaines librairies.
Non, je t'ai plus.
C'est tout. Dans ce supplément papier, il n'y a que des extraits des articles de nos archives. Avec Internet, on a accès à tous les articles intégraux, à condition d'être abonné. Et donc, on a fabriqué, un mini Google.
Titu Lecoq, c'est la googlisation des esprits, alors, la liste.
Oui, mais alors, donc, revenons un petit peu à l'essentiel.
Bon, s'il vous plaît, c'est un débat avant tout.
Diviser les listes en deux catégories, les listes du passé et les listes de l'avenir.
Ah.
C'est clairement pas la même chose, parce que moi, spontanément, comme on me dit faire une liste, je pense, la liste.
La fameuse to-do list. Hein.
Voilà, les trucs qu'il va falloir faire.
Là, oui, mais ça, bah non, voilà. Les 100 romans, c'est une to-do list. C'est les romans qu'on veut lire.
Il va falloir que
c'est
vous
l'avenir
lisiez.
Aussi.
Voilà.
Ah, aussi.
Bah oui.
Ah, mais je pense qu'on regarde ceux qu'on a lus. Je pense que dans la liste, moi directement, dans la liste du monde, je regarde, j'ai alors ça j'ai lu.
Oui,
lu.
Mais du coup,
voilà, on coche.
Il est possible, me trompe peut-être, mais il est possible que vous n'ayez pas lu ces 100 livres, et dans ce cas, ça vous donne
mais
peut-être envie.
Mais j'ai lu Julien Green.
Mais vous avez lu Julien Green,
Moïra
est dans la liste.
Il est dedans.
Et nous en sommes heureux.
Mais c'est d'ailleurs, maintenant, la liste n'est plus une liste et ressemble à plein d'autres choses. On fait des listes en vidéo, mais qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'images.
Ouais.
Et aujourd'hui, notre liste d'attente de lecture sur Netflix ou de podcast ou de n'importe quoi, ça reste une liste.
C'est comment une liste en vidéo?
Bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est des...
Ils mettent juste des chiffres.
Parce que moi, le plaisir, c'est d'écrire la liste.
Ouais. Ah oui, mais
il faut vivre avec son temps. Benoît Lebrot, est-ce qu'on vous reproche chez Topito de céder à la facilité avec ces listes? C'est une manière de pas écrire une accroche, de pas rédiger un papier que de faire une liste.
Non, alors il y a une comparaison que j'adore, moi, c'est que la liste est à l'article ce que le jus de fruit est à un bol de fruits. C'est un peu ça. On l'a pré-mâché et ça permet de mieux le consommer. C'est simplement que la liste est facile à lire et surtout quand on voit l'article qui passe sur Facebook, on sait à quoi s'attendre. On n'aura pas les plus belles plages du monde, on aura les 10 plus belles plages du monde. C'est un côté un peu édito plus fort de dire, il y en a 10, il n'y en a pas 11, il n'y en a pas 12, il y en a 10. On a exclu toutes les autres. Donc pour nous, c'est plus fort. Évidemment qu'on cède à la facilité, qu'on pourrait faire des articles très longs, tout ça, et que comme on est tous très flemmards, ça nous plaît d'écrire 3-4 lignes sur chaque numéro de liste. Mais c'est quand même de la recherche. Et puis, le fond, normalement... Alors, on est un site de divertissement. On ne se prétend pas être journaliste ou quoi que ce soit.
C'est de l'info-divertissement ?
Ouais, c'est plus du divertissement. On aime bien faire de l'humour, du divertissement. Donc, évidemment qu'un article du Monde sur Donald Trump sera sûrement plus complet qu'un top sur Topito. Mais il n'empêche qu'on parle peut-être à une frange de la population qui ne va pas lire Le Monde. Et on leur dit... On fait passer quand même des messages à travers nos listes.
Vous avez parfois l'ambition, d'amener le grand public à des sujets peut-être plus compliqués grâce à une liste. Il y a parfois une vertu pédagogique.
Ah oui, il y a des listes. Alors c'est assez triste, mais sur Topito, quand ça commence pas par top, quand c'est un chiffre, c'est souvent que le sujet est affreux derrière, et c'est sur les migrants, sur Charlie Hebdo et tout. Ça a changé tous les sites de divertissement, ces événements-là, et on s'est dit qu'on avait une communauté. Maintenant, on doit avoir du sens. On a une responsabilité. Il y a 10 ans, on aurait pu faire les 10 preuves que les gens en roue sont moches. Ça, on l'a sûrement fait sur le site. Mais aujourd'hui, on peut plus le faire parce qu'il y a des enfants qui lisent et ils vont aller dans la cour d'école taper le petit enfant roux parce qu'il est roux, je l'ai lu sur Topito. Donc maintenant, on a une responsabilité, on est adulte, sérieux et responsable.
La liste, c'est l'enfance, disait-on tout à l'heure.
Non, mais il y a quelque chose une responsabilité qu'on a maintenant. Donc nos listes, même si elles sont drôles, on essaye de... Enfin, ne tape plus sur personne, à part sur les villes. Ça, c'est notre petit jeu.
Sur Trump,
on aime bien ça. Comme
nous, nous recevons de très jolis courriels d'auditeurs. Julien nous écrit ceci. J'aimerais simplement vous faire part de la liste que ma compagne m'a laissée avant de partir 3 semaines en stage de musique avec nos enfants. Je lui avais demandé de me faire une liste des choses à faire dans la maison pendant leur absence. Et voilà ce que j'ai reçu par texto. 1. Faire la sieste. 2. Regarder le Tour de France. 3. Boire une bière avec ton pote Arnaud. 4. Faire du vélo. 5. Lire L'Équipe. C'est sympa ça, Titu Lecoq.
C'est hyper sympa.
J'ai fait une liste de mes idéaux, nous écrit René. Elle s'appelle l'idéal
liste, voilà, l'idéaliste. Vous n'avez pas parlé dans cette émission, mais les listes ont aussi le grand avantage de vider la tête, nous écrit Jean-François, de toutes les choses à faire et qui participent à cette charge mentale dont on parle tant. Faire une liste, c'est extraire de sa tête toutes ces choses en attente, les poser sur le papier, permettre de se libérer l'esprit. Même propos environ de Zabou qui nous écrit ceci. Jeune dirigeante d'entreprise, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants. Les listes sont indispensables pour moi. Checklist au travail, checklist pour les tâches ménagères à accomplir. J'ai un peu la frénésie des listes, dit-elle, non pas pour me mettre la pression, mais pour ne rien oublier. Elle me rassure et m'aide à compartimenter ce que je dois faire. Vive les listes à l'heure du tout numérique, écrit encore Zabou. Titu Lecoq, est-ce qu'on peut dire qu'il y a presque une dimension politique à la liste?
Alors, il y a clairement une dimension politique. C'est un outil d'organisation du temps absolument parfait. Et moi, si je ne fais pas une liste, j'ai cette sensation que j'oublie quelque chose. Mmh. Une sensation qui peut ruiner une journée et se dire, je suis sûre, il y avait quelque chose à faire que j'ai oublié. Donc, c'est très pratique, c'est très utile. Une fois qu'on a des enfants, je pense que juste on ne peut pas vivre sans liste quand on a des enfants, ne serait-ce que la liste des fournitures scolaires, enfin voilà.
Vous êtes déjà dessus, rassurez-moi. Oh,
bah évidemment, j'ai déjà reçu. Elle est affichée devant l'entrée de l'école.
Et la liste de ses enfants aussi, pour prendre.
Mais après, moi, ce qui a commencé à me déranger, moi qui étais très les listes, j'ai fait des articles sous forme de liste, etc. J'étais très, c'est super la liste. Et quand on a commencé à parler de charge mentale et de la charge mentale qui pèse sur les femmes, voilà, qui est un vrai sujet politique.
Donc on rappelle quand même que la charge mentale, c'est d'être responsable des opérations, non pas forcément de tout faire soi-même à la
maison.
C'est
de les planifier.
Voilà, mais de les planifier. L'homme, puisque c'est souvent un homme, va faire quand on lui demande. Ça va être de faire
la liste des courses. Voilà. Plutôt que les courses elles-mêmes. Mmh. Et donc, en fait, moi, en travaillant sur le sujet, je m'étais rendu compte qu'il y avait un problème dans la manière dont on comptabilisait les tâches domestiques dans les couples hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on va dire l'homme a fait 20% ou 30% et la femme le reste. Mais en vrai, s'il a fait les courses mais qu'il n'a pas fait la liste des courses, la charge mentale est quand même restée du côté de la femme.
Donc la liste serait culpabilisante à ce titre ?
Alors non, moi ce qui m'inquiète plus c'est le côté diktat de la liste, c'est-à-dire que après donc cette déferlante sur la charge mentale où tout le monde en a entendu parler, on a vu des livres et des articles sortir sur comment mieux gérer votre charge mentale les filles. Faites des listes. Et alors que c'était un vrai sujet politique et qu'on le portait.
C'est le contraire, peut-être la solution, c'est de. Enfin, la solution, il n'y a pas de solution.
La solution, c'est que les hommes en fassent plus.
Ça peut aider. on est bien d'accord. Mais par ailleurs, peut-être qu'il faut se décrocher un tout petit peu de l'obsession de la liste. C'est pas grave de rater un truc. C'est pas grave d'oublier l'huile quand on va faire les courses. C'est pas grave. Vous disiez, je peux rester une journée.
À la requête de perfection.
Je peux. Oui, non, mais. C'est peut-être ça qu'on peut essayer de corriger. C'est pas mal dans la vie de s'apercevoir que ça n'a aucune importance, au fond, de rater ceci.
Il y a autre chose dans cette injonction. Faites des listes, c'est une manière de dire.
C'est une manière de
garder la charge mentale, mais débrouillez-vous autrement avec ça.
Moi, ce qui me dérange, c'est ce qu'on entend beaucoup et qu'on entend aussi dans le monde du travail. Et il y a clairement le même discours très politique sur les deux côtés qui est si quelqu'un se plaint de pas s'en sortir au travail, on va dire, fais une liste. C'est le truc qu'on va trouver, tous les trucs de management.
Là encore, c'est la facilité.
Et en fait, ça n'est jamais genre, effectivement, il y a un problème peut-être sur ton poste, peut-être que juste tu as trop de travail et qu'on t'en demande trop. Mais ça n'existe pas, parce qu'on est censé pouvoir tout faire.
Florent Georgescu.
Oui, c'est ce que vous disiez, Titu. La femme qui fait la liste des courses et l'homme qui l'a fait, on surajoute
qui fait
une
les courses,
tâche.
Hein.
On a créé, par cette obsession des listes, un plan de réalité qui est un peu au-dessus, l'arrêté un peu à côté, qui est la projection qu'on en a et qui est en elle-même une charge supplémentaire dont on peut se passer dans bien des circonstances, en réalité.
Je ne sais pas si je serais capable de m'en passer. En tout cas, je pense qu'il y a clairement dans l'air du temps un discours de on est censé être des surhumains, on doit pouvoir tout faire, et d'ailleurs, vous n'avez qu'à faire une liste.
Oui, mais
vous
savez, c'est très facile de ne pas jouer à ça.
Vous iriez jusqu'à dire que votre to-do list vous veut du mal, Titu Lecoq ?
Non, mais en même temps, je suis un peu ambivalente, parce que je l'aime quand même, ma liste, je ne pourrais pas m'en passer. Non, mais après, je pense qu'on peut... On a le droit de faire des listes et de vouloir que les tâches ménagères soient mieux réparties au sein d'un couple, entre les deux. C'est pas incompatible, mais il faut arrêter de nous vendre votre vie va être plus belle avec une liste. Là, je commence à me dire non.
Votre pathologie, en tout cas, est avérée. Je vous propose de consulter. Hein. Dans quelques minutes, on sera en ligne avec une psychiatre pour lui demander si on se fait du mal avec toutes ces listes. Vous avez évidemment reconnu Zouk Machine sur France Inter, c'était en 1990. Notre obsession des listes est au cœur du débat de midi aujourd'hui. Liste des meilleurs romans de tous les temps, des plus grands films, liste de ménage, de courses, de mariage, liste au Père Noël. Mais pourquoi tant de listes ?
Le débat de midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Et on est en ligne à présent, comme promis, avec une psychiatre, psychothérapeute. Bonjour Aurélia Schneider.
Bonjour Dorothée.
Vous avez publié aux éditions Larousse La charge mentale des femmes et celle des hommes. Est-ce un sujet dont vous parlent vos patients en consultation, les listes ?
Oui, en quelque sorte, ça fait partie de leur stress, de la vie quotidienne et du stress. Mais je pense qu'il y a deux sortes de listeurs. Il y a le listeur épanoui, et pour nous thérapeutes, c'est un objet d'étude. Tout ce qui va bien, on aime bien savoir pourquoi, pour pouvoir l'appliquer à ceux qui sont les listeurs stressés. Et en fait, le listeur stressé, eh bien, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Il y a certes le frisson de satisfaction du coup de feutre.
Quand on raye quelque chose dans une liste.
Ça, c'est très intéressant.
Ah, je crois que on vous entend très mal, Aurélia Schneider.
Vous m'entendez mal.
Ça y est, allez-y, continuez. Malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer. On raccroche, on vous rappelle. En attendant, je donne la parole à Titiou Lecoq, peut-être, sur ces mots.
J'étais en train de me demander quelle listeuse je suis.
Listeuse épanouie.
Une mauvaise listeuse. Ça dépend de la liste. C'est la liste des meilleurs, de mon top 10, des meilleurs, je pense à des trucs de sexe, je ne devrais pas.
Mais chez vous, personne n'écoute la radio.
Ça, c'est une liste, effectivement, épanouissante. C'est sympa. Par contre,
c'est un chemin vers l'anxiété aussi parfois.
La liste des trucs à faire, oui, évidemment, mais parce que le monde s'effondrerait, si je ne faisais pas de liste, ça c'est
Voici
sûr.
Voici ce que nous écrit Catherine. Je fais des listes pour les oublier, puisqu'une fois notées, c'est imprimé. Pour les listes importantes de ma vie, elles sont en moi, et personne d'autre que moi n'y a accès, donc c'est une priorité. Ce message un peu étonnant d'un auditeur qui nous dit « La liste aliène, elle empêche l'oubli, elle empêche de se tromper, de se perdre. L'aliénation est organisée par les interfaces, les algorithmes. La liste freine l'émancipation et l'empathie. » Je me tourne vers le community manager de Topito, Benoît Lebrault. Vous avez testé, vous, toutes ces applications qui nous proposent de faire des listes. Elles s'appellent Remember the Milk, To Do East, elles s'appellent encore Trello, très utilisées en entreprise.
Ah, mais ça, dans les entreprises, alors, maintenant, ce qui est génial avec Google, c'est que quand on a les mails Google, maintenant, il y a la To Do List qui est intégrée dans ces mails, et on peut dire, répondre à ce mail, tu le mets dans ma To Do List. Donc ça part, ta boîte mail devient donc une To Do List à faire, et dans ces listes, il y a des liens vers d'autres listes. Et après, donc, nous, on vit avec des listes de listes. Alors, des formations professionnelles, certainement, mais on a des tableaux Excel avec des to-do pour chaque poste et faire avec d'autres collègues, d'autres to-do. C'est vrai que ça devient un enfer à gérer.
Alors, c'est intéressant. Je crois qu'on a retrouvé notre psychiatre, Aurélia Schneider. La to-do list, vous êtes là, Aurélia Schneider ?
Oui, je suis là.
Est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer la to-do list par une done list, les choses qu'on a faites pour se féliciter nous-mêmes ?
Oui, alors c'était ça. C'était un des... Quand Titiou Lecoq disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sorties sur la charge mentale et qui obligeaient finalement à se surcharger, je crois qu'elle a raison, il ne faut pas se surcharger. Moi, j'avais inventé avec mes patientes, parce que c'était beaucoup les femmes, disons-le, mais les patients aussi sont concernés. J'avais inventé la did list, c'est-à-dire le truc qui était fait. C'est-à-dire avoir la satisfaction le soir de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Et de se dire, tout ça, bah, c'est rayé. Et en fait, c'est extrêmement gratifiant de savoir qu'on a fait bah, ça, ça, ça. Et alors, quand on compte depuis le matin où on s'est réveillé jusqu'au soir où on se couche, on en a fait des choses. Alors, une petite liste, moi, j'ai rien contre. 3-4 items, maxi.
Ah, maximum.
Parce que sinon, ça devient inquiétant de faire une liste, quelquefois. Hein, ça devient... Et alors, comme disait Florent tout à l'heure, eh bien, je crois que.
Florent Georgesco, du Monde des Livres.
Oui. Je crois qu'il y a des choses qui sont très importantes de savoir, c'est-à-dire de prendre une hiérarchisation des items qui sont sur la liste. C'est pas très grave d'oublier certaines choses, certaines courses. D'autres choses, si vous oubliez le passeport avant de partir en voyage, ça serait vraiment compliqué.
Notre
boulot, c'est la hiérarchisation quand on est thérapeute, et c'est apprendre à notre anxieux, à notre listeur anxieux, de diminuer ses items en gardant les essentiels. Et il y a des petites techniques pour ça qui marchent pas mal. Et c'est vrai qu'on peut pas se permettre de s'écrouler sous une liste qui va d'ailleurs, si on n'a pas rayé tous les items, eh ben, si on n'a pas fait ça, on va être culpabilisé et on va être découragé.
Voilà, alors, c'est culpabilisant, c'est décourageant. Est-ce que c'est aussi une manière de procrastiner, selon vous, liste, Aurélia Schneider?
Tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant et j'y réfléchis. Je pense que vous avez raison. Je pense que ça nous berce un peu, cette liste que l'on fait. On se dit, tiens, je vais faire ça. Et du coup, on se ramollirait peut-être un petit peu pour justement se donner le coup de booster et qui, en fait, fait de la liste, quand elle est bien faite, un véritable moteur.
J'ai lu qu'un laboratoire du sommeil aux États-Unis avait prouvé que faire chaque soir la liste des choses à faire le lendemain permettait de s'endormir plus vite. Ça me paraît complètement aberrant. J'ai tendance à penser au contraire que c'est complètement stressant, non, de penser avant de s'endormir à ce qu'on va faire demain. Parce que tout ce qu'on a à faire demain.
Alors, si on pense à tout ce qu'on a à faire, c'est sûr que c'est le meilleur moyen pour se stresser. Mm-hmm. Mais si on couche sur le papier quelques items en se disant, bon, demain, vraiment, il faut que je fasse pareil, 2-3 trucs importants, à ce moment-là, je pense que c'est plutôt un soulagement. Mais voilà, le problème, c'est la grande liste. Mmh.
Alors justement, que pensez-vous des listes qui ont une allure un peu métaphysique dont on parlait tout à l'heure, les trucs à faire avant de mourir, par exemple?
Ah, ça c'est étonnant. Mais écoutez, pourquoi pas, en fait, je demande à étudier. Bon. Pourquoi pas, pourquoi
et vous reviendrez pas, vers nous. Ouais. Merci beaucoup Aurélia Schneider. Votre livre La charge mentale des femmes et celle des hommes est publié chez Larousse. La liste des trucs à faire avant de mourir, vous l'avez faite, vous?
Alors peut-être
Benoît Lebrault, pardon.
C'est une traduction de la bucket list anglaise et c'est la seule traduction qu'on a réussi à trouver en français. Mmh. Mais évidemment, oui, les 50 trucs, les 50 cocktails à boire avant de mourir, les 50... Et maintenant, c'est encore pire que tout, c'est des posters qu'on peut acheter dans des magasins avec les 50 villes à voir dans le monde à gratter. Donc,
je l'ai.
Non. Alors, combien de grattages, combien il reste de villes à gratter?
Est-ce que la psy est toujours en
ouais. Et Topito ne fait que ça, on le disait, hein, votre site internet topito.com. Il y a une manière aussi de faire des injonctions, de dire voilà ce que tu dois lire, ce que tu dois faire, ce que tu dois visiter. Vous mesurez cette responsabilité aussi?
On est désolé, mais je peux vous conseiller de ne nous écouter pas. Allez lire les tomes et puis faites votre vie à côté. Mais oui, un média en ligne ou un média est responsable de ce qu'il publie. C'est vrai que quand on fait les livres à lire absolument avant de partir en vacances ou les choses à faire quand tu vas dans telle ville ou telle ville, oui, on se dit peut-être qu'on participe à une anxiété générale et un stress général. Mmh. Et ben, on est vraiment désolé. Arrêtez de nous lire. Vraiment, si vous allez à New York et que vous lisez le top quoi faire à New York, ne le faites pas, faites autre chose.
La beauté d'une liste, c'est sa puissance d'affirmation. Très jolie phrase qu'on lit dans le monde des livres, Florent Georgescu, puisque vous faites le même métier que topito.com, mais finalement, oui. Au monde des livres. Vous donnez
tel
la parole.
Tel qu'il vient de le résumer, oui, totalement.
C'est une phrase de Tiphaine Samoyo, qui est écrivaine, oui, spécialiste de littérature, et qui dit, voilà, la beauté d'une liste, c'est d'affirmer, oui, avec presque un peu d'arrogance, finalement. Bien voilà, sûr. Les 100, et il n'y en a pas 101.
On peut aussi l'interpréter comme une phrase modeste de notre part. Mm. En tout cas, nous assumons la part modeste de cette phrase.
C'est dans notre, cette liste,
cette
des 100
liste c'est notre
romans,
affirmation.
Mm.
C'est pas la réalité définitive. C'est pas Moïse qui a écrit cette liste. C'est pas sur des tables de la loi. Donc, c'est une puissance d'affirmation. Ça veut dire aussi, ça désigne la subjectivité de ce qu'on fait. Nous affirmons ce que nous avons lu, ce que nous avons aimé, ce que, à travers l'histoire, nous avons défendu. Nous ne prétendons pas assumer le réel tout entier. C'est pas nous qui faisons l'histoire de la littérature, c'est nous qui la lisons, c'est nous qui essayons de la transmettre aux gens. Ce qu'on affirme, c'est notre choix. C'est notre volonté de faire ça le mieux possible, de raconter, de parler des livres de la meilleure manière possible, d'essayer de ne pas rater ce qui est important, de ne pas non plus valoriser ce qui ne l'est pas. Donc, bien sûr, hiérarchiser, trier, discriminer, si on veut, entre les livres, mais c'est nous qui le faisons. Donc, dire qu'il y a une puissance d'affirmation dans cette liste, c'est dire qu'il n'y a que nous dans cette liste, que nous sommes responsables. En dernier ressort, nous avons fait cette liste avec Jean Birnbaum, qui est directeur de Monde des Livres, et Raphaël Léris. Nous sommes trois à assumer ça, Nous nous affirmons à travers ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être des transmetteurs, ce qui est notre métier.
Ce qu'on n'a pas encore dit aussi sur le plaisir des listes, c'est les cohabitations improbables, si j'ose dire.
Oui.
Le paradoxe d'une liste, c'est qu'elle met tout sur le même plan, qu'elle met tout au même niveau, et on voit côte à côte Marcel Pagnol et Philippe Roth, par exemple.
Oui, bien sûr. Mmh. C'est ce qui permet peut-être de sortir de la pathologie de la liste, de ce qui peut faire de nous des listeurs anxieux.
Oui.
Comme disait notre intervenante, parce que ça rattrape un peu de hasard dans la liste. Parce que
mais ça enlève tout relief aussi, ça lisse.
Non, mais ça essaie d'imiter le relief de la vie qui est dans ce qu'on disait sur les listes depuis tout à l'heure. Je me dis que il y a dans l'usage qu'on en fait souvent et surtout peut-être dans l'usage qui se développe en ce moment quelque chose comme une lutte contre le hasard, une peur du hasard. Mettre Pagnol à côté de Bulgakov, c'est dire que le hasard des parutions, le hasard de ce qui s'est passé dans ce journal, a fait que, de fait, ils se retrouvent côte à côte.
Que vos critiques les ont aimés tous les deux.
Et donc là, on retrouve une forme de relief, qui est le relief que le hasard donne aux choses et qui est peut-être ce qu'il y a de plus savoureux dans la vie, le hasard, ce qui ne sera jamais dans la liste. La to-do list n'a qu'un problème, c'est qu'il va nous arriver autre chose dans la journée qui est totalement imprévue et qui sera le truc excitant de la journée. Oui, ce qu'il y a de hasard dans une liste comme celle-là, pour laquelle nous n'avons pas fait de classement, et c'est très important dans la conception de cette liste, on l'a classée chronologiquement.
Ça n'est pas un top 10, c'est une liste.
C'est la seule différence qu'il y a entre nous, Topito et nous, c'est qu'on ne fait pas un 10 ou un ou au-delà, on dit « ça s'est passé comme ça ». On dit le hasard au milieu de la liste.
Ça me fait penser à quelque chose. Avec Topito, on va enregistrer un podcast cet après-midi. Et c'est le top 3 des meilleurs symboles de la Bretagne. Alors, c'est très léger, hein, je vous l'accorde. Mais on va mettre en opposition le cidre, le Queen Yaman et Nolwenn Leroy. Qu'est-ce qui fait qu'un meilleur symbole... Est-ce que Nolwenn Leroy est plus représentatif de la Bretagne?
On est proche de l'absurde, n'ayons pas peur de le dire.
Et on débat pendant une heure pour savoir ce qui va être le meilleur symbole. Et
c'est Jean-Yves Le Drian qui va être triste.
On va le rajouter, c'est vrai qu'on l'a pas eu. C'est vrai qu'un point Jean-Yves Le Drian serait important, mais voilà, ça nous fait rire. Nous, on fait des listes, mais elles nous font rire. Notre but, c'est de rire et de discuter, de débattre, mais d'une manière totalement absurde sur pourquoi Nolwenn Leroy est plus symbolique sur la Bretagne que le cidre, par exemple, qui est normand à la base. Mais bon, ça, faut pas leur dire.
Titu Lecoq.
Mais je pense que, ouais, alors, c'est le plaisir des listes, c'est peut-être ça. C'est de mettre au même plan des choses qui ne devraient pas se retrouver. Et en fait, dans les to-do list, on fait pareil. On peut mettre un rendez-vous professionnel très important et racheter du papier toilette, quoi. Et ça ne va pas être hiérarchisé.
Vous le faites, ça?
Je le fais. Je trouve ça génial.
Mais aussi, trouver un sens à ma vie, par exemple, entre acheter du melon
ou refaire du sport. Faire du sport, qui est régulièrement sur la liste. Ouais. Et là, il y a une vraie esthétique, une vraie poétique. Et du coup, j'ai
mis à plat du réel aussi, presque tout au même niveau.
Tout se chevauche un peu. Et je sais que la vraie liste efficace, les vrais listeurs et listeuses efficaces, ils mettent des numéros, quoi. C'est ce que disait la psychiatre, ça va être quatre choses à faire et on numérote du plus important au moins important. Je me refuse à faire ça.
Parce que la psychiatre a aussi dit qu'il fallait éviter les listes trop longues.
Ouais, alors moi j'aime que ce ne soit pas numéroté et très très long.
Vous avez des cahiers spéciaux pour ça?
Bien sûr, dans mon sac j'ai toujours le petit cahier à liste qui n'est pas censé être à liste, mais en fait il n'y a que des listes dedans.
Dans le mélange, Florent, je pense à un truc, pardon. J'ai sous les yeux par hasard le fil des dépêches.
Oui, c'est
que
une
vous
liste
avez
aussi.
En permanence sous vos yeux.
Les dépêches de l'agence France.
C'est ça
presque.
Qui est fascinant, c'est ce mélange-là. C'est que là, ça tombe au hasard, le foot, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe dans la Manche, les drames, les trucs légers, la canicule. Et c'est la beauté des listes, c'est ça aussi, c'est le fil des dépêches, c'est le monde qui apparaît comme ça, dans son absurdité apparente.
Alors justement, pour faire un lien avec l'actualité, Titu Lecoq, une liste a été établie récemment, celle des féminicides, celle des femmes abattues par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que ça a un sens, dans le cas d'espèce, de viser l'exhaustivité de la liste? Et à quoi elle sert? Elle a un sens politique, là encore?
Il y a un vrai sens de les violences faites aux femmes, on en parle beaucoup, on fait, voilà, il y a des journées spéciales, etc. Et la question, c'est comment le traiter différemment. Et effectivement, c'est là où la forme de liste donne autre chose, permet de se concentrer sur les victimes et pas sur les tueurs, ce qui change aussi l'angle qu'on a en général dans les articles.
Ça implique de donner le nom des victimes
ça
aussi.
Ça implique de donner le nom des victimes, de raconter un petit peu l'histoire. Et il y a quelque chose de très froid dans une liste, et faire une liste de victimes. Ce qu'on s'en souvient, par exemple, sur le 13 novembre, la liste des victimes, c'est une puissance d'évocation, d'énumération qui est vraiment très, très forte. Et donc, je pense que c'est un outil journalistique. Quand on se demande, j'ai un sujet, quel angle je prends et comment je le traite, effectivement, sur les féminicides, la liste, voilà, ça, c'est rendre sa puissance réel au sujet qu'il devrait toujours avoir.
C'est vrai qu'on se souvient tous de ces noms de victimes du Bataclan qui étaient listés exhaustivement dans la presse, Florent Georgescu.
Ça avait commencé dans la presse, enfin à mon souvenir, pour le 11 septembre. Les journaux, même français, avaient publié déjà une liste des victimes. Un mémorial, c'est une liste de noms. C'est la liste la plus sèche et en même temps la plus profonde qui existe. C'est une manière, l'hommage qu'on rend aux morts. C'est la liste suprême. C'est je pense, il faut aller au mémorial de la Shoah à Paris, où il y a ces murs, où il y a la liste des victimes françaises, qui vise à l'exhaustivité, même si c'est toujours, au fond, impossible. Et la pure liste, la liste où il n'y a pas un mot, où il n'y a que des noms, là, pour le coup, ça devient autre chose. C'est peut-être quand il n'y a plus rien à dire, quand on ne peut pas bavarder sur un sujet. Ce qui s'affirme et ce qui se dit le plus fortement.
C'est aussi une manière de se taire en disant les choses, finalement, exactement. De faire simplement la liste des victimes.
Et de se retrouver, je pense que quand on peut faire une liste où on met que les noms, il y a une espèce d'accord, on postule qu'il y a un accord dans la société, de nous tous, sur on sait ce que signifie pour nous tous cette liste.
Il n'y a pas de discours, donc on se tait, en effet, vous avez totalement raison.
Alors, pour faire un autre lien entre vous deux, Titiou Lecoq et Florent Georgescu, je voudrais vous signaler que Honoré de Balzac ne figure pas, malheureusement, dans la liste des 100 grands romans du monde. Vous allez, je crois, sortir un livre à la rentrée sur Honoré de Balzac, Titiou Lecoq.
Tout à fait, oui. J'ai écrit un livre sur Balzac et moi.
mais il n'y est pas, tout simplement parce qu'il n'a pas écrit de roman après 1944.
Ce gros ballot s'est débrouillé pour mourir avant la naissance du monde.
Voilà. J'aime beaucoup ce que j'ai lu encore dans son supplément du Monde, Florent Georgescu, c'est Bertrand Poirot-Delpech, romancier et critique littéraire.
Qui a été feuilletoniste très longtemps.
Qui résumait ainsi son métier, il faut piloter à vue entre la crainte de négliger un génie et la tentation d'en voir partout.
Exactement.
C'est exactement
c'est,
ça.
C'est le résumé de notre travail. Oui.
Voilà votre vie ainsi résumée. Une dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle dans le débat de midi, j'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Qui veut commencer ? Benoît Lebreux peut-être, de Topito ?
Oui, moi c'est depuis tout petit, je croyais qu'avoir 30 ans c'était devenir adulte et responsable. Et depuis que j'ai 30 ans, je me suis dit, verra plus tard.
Ouais. Hein. À 40 ans peut-être ?
Ouais, non. Allez, objectif.
Même question à vous Florent Georgescu, du Monde des Livres.
Écoutez, le mariage. J'ai carrément changé d'avis sur le mariage. J'étais au-delà de 30 ans d'ailleurs, tout à fait, totalement décidé à ne jamais me marier. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ça fait 10 ans que je suis.
Que vous êtes marié.
On change d'avis parfois. Je m'en réjouis.
Pour le meilleur et pour le pire, on change d'avis parfois. Alors, il arrive que certains invités aient déjà répondu à cette question parce qu'ils ont déjà été invités.
Ils ont droit de refaire.
C'est votre cas, Titiou Lecoq.
Alors, c'est le contraire de la dernière fois.
Je garde un souvenir ému de votre réponse de l'été dernier. Vous aviez changé d'avis sur le sens dans lequel il faut positionner le rouleau de papier toilette sur le dérouleur. Voilà.
Alors, ça, c'est un sujet topito de première importance.
Voilà. Hein. Ah, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, vous êtes arrivé à quelle conclusion?
Je suis très impatiente pour la réponse d'aujourd'hui. Sur quoi avez-vous changé d'avis, Titiou Lecoq?
Alors, tout simplement sur Internet. Pendant très longtemps, Internet, je l'ai vécu comme une bouffée d'air frais et d'oxygène dont j'avais absolument besoin. Et maintenant, c'est devenu un endroit qui m'étouffe.
Ah, comment ça?
Oui, ça m'étouffe. Je trouve que les réseaux sociaux, quoi, que les gens se hurlent dessus en permanence. Et je suis là, mais arrêtez, vous faites trop de bruit.
Donc, vous allez tout couper?
Je peux pas. J'en ai besoin pour travailler, mais.
Vous préférez lire Balzac, c'est bien.
Ah, mais tellement. Mais c'était ça le bonheur.
Oui.
Lisons Balzac. Sujet contemporain d'ailleurs, Balzac, Titiou Lecoq.
Oui. Alors c'est ce que Balzac nous apprend de notre époque, ce qu'il a à nous dire sur aujourd'hui et beaucoup beaucoup de choses.
Beaucoup beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, Benoît Lebreux du site topito.com. Vous avez un top à nous conseiller peut-être?
C'est dur tellement. Ça.
Tellement.
Allez sur topito.com.
On vous renvoie au site internet. Florent Georgescu, journaliste au Monde. Le supplément est disponible donc gratuitement dans les librairies.
Il était dans à peu près 500 librairies en France.
Ça a été
un très beau succès. Il doit pas en rester. c'est beaucoup, mais enfin, tentez votre chance. Parlez-en à votre libraire. Grands... C'est l'occasion de parler avec votre libraire, ce qu'il faut toujours faire.
C'est les 100 grands romans du monde. Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titu Lecoq sort en livre de poche en septembre. Et on attend pour octobre votre roman sur... Honoré de Balzac. Le débat de midi revient demain pour parler privatisation. L'actualité ne manque pas en la matière. Aéroport de Paris, la Française des Jeux, Engie. Est-on en train de brader les bijoux de famille ?